Je pense que c'est un des grands drames et un des très grands malheurs. Comme quoi, il n'y a pas eu que du bon dans Vatican II. Il y a eu aussi. Je suis converti dans cette église conciliaire de Vatican II. Donc, on peut rencontrer le Christ, il n'y a pas de problème, ça marche, il n'y a aucun problème. Mais il y a quand même des lacunes et des trucs qui sont pas. On revient de loin, vraiment, on revient de très 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 loin et c'est pas gagné.
Et on espère que, et je pense que c'est à la hauteur, et c'est pour ça qu'on aime tant aussi la messe, comment on dit, la messe, je ne sais même pas comment on doit dire, la messe de toujours en fait.
Oui.
Parce que la messe de toujours, justement, il y a ce côté précieux, beau, qui nous amène
On est très sensible tous les deux à la tradition. C'est vrai qu'il y a 20 ans, découvrir la passion de Mel Gibson au
Ouais,
cinéma
bien sûr, ça a marqué les générations.
a été très marquant. Voilà.
Zeffirelli aussi.
Bien sûr,
Oui.
Zeffirelli, Pasolini, tous les l'évangile selon saint Matthieu, Jésus de Nazareth, tout ça, bien évidemment, toutes ces grandes œuvres. Mais en termes d'inspiration, c'est vrai que Gibson. C'est vrai que Gibson, on aime, on n'aime pas, on peut en discuter, ce que tu veux, je m'en fous. Mais c'est quand même très fort ce qu'il a fait. Je me réjouis, et tu peux pas t'imaginer à quel point, à l'idée qu'il prépare la résurrection. Vraiment, c'est une joie immense. Et donc c'est forcément très inspirant parce que tu dis, putain, quand même, il est courageux, hein. Il y va, hein. Il y va, il envoie, et après c'est discutable, t'aimes, t'es pas, t'es sensible, insensible à ce cinéma, c'est trop doloriste, c'est trop dur, c'est les mystères douloureux. C'est les mystères douloureux. La passion du Christ, c'est les mystères douloureux. Zeffirelli, c'est les mystères glorieux parce qu'on part de l'Annonciation jusqu'à l'Ascension. Voilà. Donc c'est la vie du Christ dans son ensemble pour la version longue, extraordinaire de presque 6 heures. Pasolini, c'est les mystères joyeux. C'est l'annonce de
Zeffirelli.
le. Non, Pasolini,
Ah, pas de,
mon
ah,
amour.
tu as.
Zeffirelli, j'ai dit.
Ah,
Zeffirelli, la
pardon, j'avais dit
version.
Pasolini, c'est pour ça. T'as dit deux fois Pasolini, je pense. Mais c'est pas grave, c'est très bien.
Alors, Zeffirelli pour Jésus de Nazareth. Donc ça, c'est les mystères glorieux. Et Pasolini pour l'évangile selon saint Matthieu, qui est vraiment un film totalement désincarné, pas joué, machin. C'est l'évangile à la virgule, qui est voilà. Donc c'est vraiment la joie de l'évangile en fait. Et c'est ce qu'on voudrait faire nous plus tard avec la lumière du monde, c'est les mystères lumineux au cinéma en fait. Et c'est vrai que c'est très inspirant tous ces réalistes, tous ces réalisateurs et toutes ces séries. Même les films américains, hein, moi ça m'inspire hein, beaucoup. Dans la réalisation, dans l'audace de traiter tel ou tel sujet, que ce soit Sound of Freedom ou que ce soit le truc sur l'avortement, là, de j'ai oublié le nom,
Unplanned.
Unplane, tout ça, sur
Oui, de toute
la
façon,
vie des saints aussi,
c'est heureusement qu'ils sont là. J'ai envie de dire parce que
ils ont fait un Padre Pio avec, comment il s'appelle cet acteur,
Shia LaBeouf.
avec Shia LaBeouf. Bravo les mecs, bravo. Enfin, les Polonais ont fait Faustine Kowalska, mais je pense que la tradition doit accueillir à bras-le-corps le renouveau et Vatican II, les réformes, machin, etc. à bras-le-corps, comme le renouveau, les charismatiques, machin, doivent embrasser à bras-le-corps la tradition et de ne pas avoir peur
Mais
de
c'est
la
pour
beauté, de la liturgie, de la tradition, du catéchisme, etc. Il doit y avoir à un moment donné, il va falloir que les mecs en fassent fusion en fait.
Mais je trouve
Voilà.
que le pape Léon, justement, est peut-être
La clé?
arrive à point nommé pour ça et peut-être la clé justement de tout ça. On
On
verra.
l'espère.
En tout cas, ça nous a donné beaucoup de joie et beaucoup d'espérance
Je
et de
suis
courage.
un enfant de Jean-Paul II. Jean-Paul II a été mon père de ma conversion. Voilà. Benoît XVI a été mon père dans ma structure, dans ma formation, après la conversion. C'est-à-dire que Jean-Paul II m'a donné l'amour du Christ, donc j'ai aimé, avant de comprendre. Benoît XVI m'a permis de comprendre, donc d'aimer davantage, voilà, avec la culture, l'héritage, le savoir, la géographie, la littérature, la théologie, etc. J'ai vu en Benoît XVI un immense prophète, un très grand saint, vraiment. Je pense que Benoît XVI est canonisable à mon niveau, hein, c'est mon point de vue. Et j'ai trouvé très heureux cette réconciliation qu'il a faite à un moment donné avec les lefévristes, la tradition, l'accueil, le retour au bercail, etc. Voilà. Je fais partie de ceux qui ont été très tristes et qui se sont sentis orphelins avec François. Je le dis en toute simplicité et en toute transparence, et j'ai pas honte ni peur de le dire.
Je veux personne ne se paraît le successeur de Pierre. Mais si, par hasard, nous devions constater que le successeur de Pierre fait des choses que le successeur de Pierre ne peut pas faire, en soi, ne peut pas faire, car enfin les théologiens ont étudié ces choses-là, ce ne sont pas des choses invraisemblables. Il est plus vraisemblable, écoutez bien ce que je vous dis, ne dites pas, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, il est plus vraisemblable que le pape ne soit pas pape, que la vérité qui est enseignée pendant 2000 ans soit fausse. Je répète pour que vous compreniez bien. Je dis, il est plus possible, c'est une hypothèse plus possible que le pape ne soit pas pape, le pape actuel ne soit pas pape, qu'un pape ne soit pas pape. Si vous voulez, disons pas le pape actuel, disons un pape, qu'un pape ne soit pas pape, c'est plus possible que la vérité de toujours ne soit pas vraie. Ça, c'est pas possible. Ne me faites pas dire que j'ai dit, Monseigneur Lefebvre a dit que le pape n'était pas pape. Ne me faites pas dire ça, j'ai pas dit ça. Mais je dis, c'est une hypothèse qui a été envisagée par les théologiens. Ce n'est pas une invention de ma part. Vous pouvez lire dans Bellarmin, l'édition française des actes du Concile du Vatican Ier, pourtant le Concile de l'infaillibilité du pape, donc qui exalte le pape et son infaillibilité, à juste titre. Eh bien, la préface de la vision française, approuvée avec une lettre manuscrit du pape Pie IX. Donc cette préface est approuvée par le pape Pie IX. Dans cette préface, il est marqué explicitement s'il arrivait un jour ce qu'à Dieu ne plaise, qu'un pape devenait hérétique en personne privée, dans sa personne privée, il n'y aurait pas besoin de jugement. Et il cite la parole de saint Antonin. Il dit, dans ce cas, le pape n'aurait pas besoin d'être jugé, il ne serait par le fait même, il ne serait plus pas. Ça, c'est dans les actes, je vous dis, prenez l'édition française, les actes du Concile Vatican Ier, avec la préface explique tout ce qu'est le pape et les possibilités, choses qui peuvent arriver au sujet du pape. Et c'est, il y a une préface signée, manuscrite par le pape Pie IX lui-même. Alors, ce n'est pas des choses que j'invente. Prenez Monseigneur le cardinal qui vivait à Fribourg, le cardinal suisse, là, qui est mort maintenant, Journet. Le cardinal Journet, vous trouverez dans le cardinal Journet, dans son traité d'Ecclesia de Sumo Pontifice, vous trouverez la possibilité, l'éventualité d'un pape qui, comme personne privée, attention, comme personne privée, pas comme pape parlant ex cathedra, et comme personne privée pourrait devenir hérétique. C'est une chose dont les théologiens ont parlé, c'est pas moi qui l'invente. Alors on n'a qu'à lire ces choses-là et savoir. Alors, donc c'est pourquoi je vous dis, il est plus vraisemblable, plus possible, encore une fois, c'est une hypothèse, plus possible qu'un pape, par une éventualité comme celle-là, ne soit pas pape, ou éventuellement, j'imagine, je ne dis pas encore une fois, et attention, ne veut pas dire que je ne dis pas, j'imagine qu'un pape, avant son élection, ait donné son nom à une société secrète, il est par le fait même excommunié. Quand on donne son nom à une société secrète, par le fait même, on est excommunié. Par les droits canons, c'est tous les papes l'ont dit, on est excommunié. Si réellement ce pape, cet homme, avait donné ce cardinal, je ne sais pas moi, ou ce prêtre, quand il était prêtre, a donné son nom à la franc-maçonnerie ou à une société secrète défendue par le Saint-Siège, il serait excommunié, et par le fait même, son élection est invalide. L'élection est invalide. Parce que quelqu'un qui est excommunié ne peut pas être pape, c'est impossible. Alors, encore une fois, c'est une hypothèse. Mais je dis, c'est une hypothèse, c'est pourquoi, moi, si on me fait choisir, on me dit, ah, vous désobéissez au pape. Oui, mais je préfère encore désobéir, je dirais, concrètement, à ce pape concret qui est devant moi, plutôt que d'abandonner 20 siècles de foi.
Le sue origini risalgono ai rituali legati al buddismo, dove la danza veniva offerta come atto di devozione per portare benedizione, armonia e pace.
vraisemblable que le pape ne soit pas pape, que la vérité qui est enseignée pendant 2000 ans soit fausse.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction, dans lequel nous allons faire une analyse, et disons-le, une lourde critique du film anticatholique improprement appelé Sacré-Cœur. Cher monsieur Steven Gunnell, qui en est le co-réalisateur, cette émission, est, je dirais, est presque été faite pour vous. C'est pour votre conversion qu'elle est faite. Voilà. L'Église enseigne que le mal n'a aucun droit et que l'erreur n'a aucun droit. Donc quand l'erreur est professée, c'est charité que de le relever pour qu'elle disparaisse. Cher Steven Gunnell, nous avons mis pour vous en description dans cette vidéo un lien d'un livre écrit par Monseigneur de Ségur consacré au Sacré-Cœur. Je ne peux que vous inviter à aller le lire. Monseigneur de Ségur est un des plus grands théologiens français du XIXe siècle. C'était un ami du pape Pie IX. Il a été approuvé par le pape Pie IX, notamment dans ses écrits sur l'infaillibilité pontificale, lorsqu'il rappelait que tout l'enseignement officiel de l'Église est infaillible. Voilà, donc Monseigneur de Ségur a un CV parfait. Il est totalement au-dessus, je dirais, des querelles doctrinales d'aujourd'hui. Il en est en dehors, si je puis dire, encore que, je vous avoue qu'il penche plutôt du côté des vacantistes, mais bon, ça c'est un autre problème. Voilà, donc vraiment, je vous renvoie, cher Steven Gunnell, à cet ouvrage. Avant de nous lancer dans le sujet du jour, nous allons faire les annonces habituelles d'abord. Donc si vous cherchez mon bouquin, vous pouvez aller chez nos amis de la librairie française au 202 rue Lecourbe. 202 rue Lecourbe. Voilà, il va y avoir des événements d'ailleurs qui seront organisés là-bas. Ce sont des événements qui eux aussi permettent de réagréger la qualité française. Donc n'hésitez pas, si vous êtes francilien, à vous y rendre. Vous pouvez aussi aller chez nos amis, sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert Bellarmin, qui, comme vous le savez, publie des ouvrages remarquables, qu'il s'agisse de rééditions, donc de livres d'autrefois, ou de nouveaux auteurs. Et par exemple, nous ne pouvons que vous envoyer au catéchisme du chanoine Moissé. Et les vrais, chers amis, les vrais, peuvent aussi aller sur le site des éditions L'Estocade, où vous pourrez notamment avoir mon dernier ouvrage, que vous voyez là, Le roi, le dauphin et le connétable, qui est sur la véritable histoire de Vichy, puisque, je l'ai dit, je le répète, si la France a repris la guerre le 13 novembre 1942, c'est grâce à Vichy, puisque c'est Vichy qui a fait l'armée de la revanche avec Végan, et c'est Darlan qui l'a envoyé dans la guerre, selon un plan établi par Pétain, enfin, plan qui avait été établi avec Pétain le 4 août 1940, et Darlan relance la France dans la guerre, contre l'Axe, le 13 novembre 1942. Voilà. Quand on sait ça, que reste-t-il des mensonges du système ? Pas grand-chose. Il est bon de faire un peu de répétition. Hein. C'est, la pédagogie, c'est l'art de la répétition, je crois. Voilà. Et aussi, au passage, je crois que là, c'est vraiment le moment ou jamais, nous vous renvoyons, chers amis, au livre qu'Éric Leclerc a écrit sur Sainte Marguerite-Marie à la coque. Voilà. Toujours aux éditions L'Estocade. Alors, comme vous le savez, nous faisons aussi à cette antenne un appel aux dons. Donc d'abord, n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce à la radio financièrement, puisque l'argent est le nerf de la guerre. Et puis, effectivement, je crois que vous vouliez dire un mot à ce sujet.
Oui, Jean-Simon, son marche, a priori ça marche. Je voulais remercier les dons de Tipeee récents, donc notamment Amanda, Rémiche, Cardinal de Bourbon, Vepoulin, Antoine, Alexis et Boglier. Merci à vous.
Merci aux personnes qui nous aident. C'est pas comme si il y en avait beaucoup qui le faisaient vraiment. Hein. Bon. Voilà, voilà. Donc, appel aux dons, comme vous le savez aussi, chers amis, pour l'école Les Trois Saint-Jean en Belgique. Appel aux dons pour Notre-Dame Auxiliatrice dans la commune de Béton. Et appel aux dons pour le monastère de l'Œuvre de l'Étoile. Tous les liens sont en description si vous voulez leur donner un petit coup de pouce. Voilà. J'oublie sans doute des choses. Pardonnez-moi, c'est une tradition. Mais on va pouvoir attaquer. Alors, avant de nous lancer sur le grand sujet du jour, quelques mots de l'actualité spirituelle qui est riche. D'abord, force est de constater que Prévost est entré en phase de bergolisation. Qu'est-ce que j'entends par là ? Prévost a commencé son pseudo-pontificat en roulant en première ou deuxième vitesse, vous voyez. Là, il est passé à la quatrième, voire en cinquième vitesse. C'est-à-dire la vitesse bergolienne. Qu'est-ce que c'est la vitesse bergolienne ? C'est professer une hérésie ou une provocation anticatholique à chaque intervention publique. Prévost, on est là. Maintenant. Voilà. Il était allé doucement, mais maintenant, il en est là. Permettez-moi d'illustrer mon propos qui n'est pas gratuit. D'abord, le 26 août dernier, dans un discours au Vatican, vous retrouvez le texte sur le site du Vatican d'ailleurs, c'est là où je suis allé le prendre, Prévost a annoncé qu'il cherchait à créer une nouvelle église. Citation. Alors, un petit instant. Donc, chers amis, nous devons rêver et construire une église humble. Donc, j'entends que l'église catholique n'est pas humble, puisqu'il faut construire une église humble. Donc, plus loin, engageons-nous à construire une église. Donc, moi, je croyais que notre Seigneur Jésus-Christ avait institué une église. Donc, vraisemblablement, Prévost ne se sent pas membre de cette église, puisqu'il appelle à en construire une autre. Hein. Donc, engageons-nous à construire une église toute synodale, toute ministérielle, toute attirée par le Christ. Donc, selon lui, l'église catholique instituée par notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas attirée par Jésus-Christ, c'est ce que je crois comprendre. Et donc, tendue vers le service du... Service de quoi ? Service de Dieu ? Service des âmes ? Pas du tout. Service du monde. Car la secte moderniste est au service du monde. Voilà, alors que l'église catholique est au service de Dieu et des âmes. Voilà, donc le 28 octobre, par ailleurs, Prévost, dans un discours que vous pouvez toujours retrouver sur le site du Vatican, a dit que les fausses religions, donc les religions qui damnent, sont des religions sœurs du catholicisme. Alors là, je ne comprends pas, parce que Prévost se prétend catholique, bon, à ce micro, on sait qu'il ne l'est pas. Mais le concile de Vienne, le concile de Bâle, évoquait l'islam en ces termes, citation, la secte impie de Mahomet. Selon le concile de Bâle, ce n'était pas tout à fait une religion sœur. Hein. Voilà. Donc, on voit bien que Prévost contredit la foi catholique, ce qui est une énième démonstration du fait qu'il n'est pas catholique. Bon. Et ce même 28 octobre, chers amis, que s'est-il passé au Vatican ? Vous l'avez vu tout à l'heure en vidéo. Il y a eu au Vatican une nouvelle procession païenne. Plus précisément, une procession hindoue. Cette procession hindoue est la parfaite mise en œuvre de Vatican II, à double titre. Premièrement, c'est la mise en œuvre de la liberté religieuse. Selon la liberté religieuse, les fausses religions ont le droit de se propager publiquement sans subir la moindre contrainte. Donc là, c'est la parfaite mise en œuvre de la liberté religieuse. Un peu comme d'ailleurs était une parfaite mise en œuvre de la liberté religieuse la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Et c'est également une manifestation de Vatican II, car dans Vatican II, dans Nostra Aetate, il est enseigné que l'hindouisme permet, citation, de contempler le mystère divin. De contempler le mystère divin. Donc, les modernistes dits conciliaires, lorsqu'ils observent cette procession hindoue, cette procession païenne, observent selon eux le mystère divin. C'est-à-dire que nous, catholiques, nous voyons la manifestation d'une religion démoniaque qui damne, mais les modernistes dits conciliaires, eux, contemplent le mystère divin. Voilà. Ce sont vos textes, hein, donc n'allez pas pleurer en commentaire, ce sont vos textes. Hein. Bon, cette hypocrisie moderniste est assez insupportable. Bon. Voilà, parce qu'on nous fait grief d'opposer aux modernistes leur propre production. C'est pas très sérieux, quand même. Bon. Voilà, donc, Prévost se déchaîne. Ensuite, chers amis, en écoutant une conférence de Mgr Lefebvre que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube « Transmettre la tradition », en fait, c'est « Transmettre le lefebvrisme hein, », je vous le dis amicalement, cher Marcellus. Hein. Passons. Néanmoins, la chaîne, d'un point de vue documentaire, est intéressante. En écoutant cette conférence de Mgr Lefebvre, je suis tombé sur de nouveaux propos cédévacantistes de Mgr Lefebvre. Nous les avons mis également en introduction. Et que dit notamment Mgr Lefebvre ? Je vous retrouve ça dans un instant. Il nous dit ceci. Il est plus vraisemblable que le pape ne soit pas pape, il parlait de Montigny Paul VI, que la vérité enseignée depuis 2000 ans soit fausse. Il est plus possible que le pape ne soit pas pape, que la vérité de toujours ne soit pas vrai. Autrement dit, il est plus vraisemblable que Montini Paul VI ne soit pas pape que Vatican II soit vrai. Monseigneur Lefebvre pose bien la problématique. Soit les cédévacantistes ont raison, soit les modernistes ont raison. Ce qui est assez drôle, parce que ça prouve que Monseigneur Lefebvre évince lui-même la religion qui va naître plus tard dans la fraternité Saint-Pie X. Bon, passons. Donc Monseigneur Lefebvre pose bien la question, et je la remets à la sauce, je dirais, de la problématique du jour. Il est plus vraisemblable que la véritable Église soit là où on ne bénit pas les couples homosexuels que là où on bénit les couples homosexuels. Voilà. Il y a deux églises. Il y en a une qui ne bénit pas les couples homosexuels. Il y en a une qui bénit les couples homosexuels. Question, laquelle est la vraie ? Réponse, c'est celle qui ne bénit pas les couples homosexuels. C'est pas compliqué. Bon. Voilà. Donc, nouveau propos, c'est des vacantistes de Monseigneur Lefebvre. Ensuite, chers amis, je me plains souvent à ce micro de la très faible qualité des commentaires, que ce soit dans le chat. D'ailleurs, beaucoup de malveillance s'exprime, de personnes qui disent catholiques, d'ailleurs, c'est assez intéressant, et des commentaires tout court dans la section commentaires. Mais là, je suis tombé sur un commentaire intelligent qui alimente de façon très intéressante le débat. Et je remercie la personne qui a commenté, j'ai plus son nom, pardonnez-moi. On se souvient, quand j'ai débattu face à Mathieu Lavagnat, que j'ai défendu face à lui l'infaillibilité pontificale, et notamment l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, qui est rappelé par Pie XII dans Humani Generis. Pour s'opposer à l'infaillibilité pontificale, Mathieu Lavagnat m'a opposé que non, le magistère ordinaire est juste infaillible de temps en temps, on ne sait pas quand d'ailleurs. Hein, bon. Et il m'a opposé, pour nier l'infaillibilité du magistère ordinaire, des théologiens qui, en réalité, défendent l'infaillibilité du magistère ordinaire, et notamment le père Dubanchy du Dictionnaire de théologie catholique. Je vous ai déjà évoqué tout cela. En revanche, il y a des références que m'avait opposé Mathieu Lavagnat, enfin des théologiens que je ne connaissais pas, je le dis très humblement. Et notamment, il m'opposait un théologien qui s'appelle Dicamp. Pierre-Tiremont, est-ce que vous avez la pièce numéro 1 sous le coude, à tout hasard? Non? Bon, c'est pas grave. Vous prenez pas la tête, s'il n'y a pas de pièce numéro 1, c'est pas très grave. Donc, dans mon débat face à lui, Mathieu Lavagnat qualifiait Dicamp, citation, de grand théologien. Et moi, j'étais sceptique quant à cette qualification, puisque Dicamp évoquait un magistère qui n'était pas infaillible en matière de foi et de mœurs, ce qui n'a absolument aucun sens. Le magistère de l'Église est infaillible en matière de foi et de mœurs. Bon, bon, merci Pierre-Tiremont, c'est gentil de votre part. Donc, bon, voilà, j'observe qu'il y a un théologien qui tient des propos qui ne sont pas approuvés par l'Église. Mais je ne peux pas dire davantage à ce moment-là. Dans le commentaire dont je vous parle, on me renseigne un peu plus sur ce fameux Dicamp. Et alors là, ça vaut le détour. En Allemagne, au début du XXe siècle, s'est créée une ligue internationale contre l'index, pour faire supprimer l'index. Et dans cette ligue, alors je précise que cette ligue voulait faire un monument à un théologien qui s'appelait Schell et qui avait été mis à l'index. D'accord ? Qui était membre de cette ligue ? Des clercs et également des professeurs de théologie, et notamment qui ? Le fameux Dicamp. Donc la gigasource qui m'est opposée par Mathieu Lavagnat, qui est censé faire autorité, c'est quelqu'un qui militait pour la suppression de l'index. Saint-Pie X va désapprouver cette ligue. Et dans un article du journal L'Éclair de mémoire du 7 juillet 1906, que vous pouvez retrouver sur Gallica, on lit ceci, « Le pape désapprouvait ouvertement l'initiative du comité » et traitait les membres de rebelles et d'ignorants. Donc il traitait Dicamp, le grand théologien de Mathieu Lavagnat, de rebelles et d'ignorants. Et il écrivait notamment ceci, citation, « Ceux qui professent de pareilles idées sont victimes d'une regrettable ignorance de la foi catholique, ou bien ce sont des rebelles contre l'autorité du Saint-Siège. » Mathieu Lavagnat, je vous le dis amicalement, changez de référence. Prenez pour référence le magistère de l'Église et de la sorte, vous convertirez. Voilà. Il serait dommage que vous restiez dans l'histoire comme un défenseur de Vatican II, très franchement. Très franchement, et comme un défenseur du rite homosexualiste de Philippe VI Supplicans. Vous méritez mieux que ça, sincèrement, vous méritez mieux que ça. Bon. Donc je vous invite à abjurer tout cela. Voilà. Alors, j'ai pas le temps d'en parler ce soir, mais il faudra que je réponde un de ces quatre à un troll, un nouveau troll moderniste, qui se fait appeler sur Internet le père Horowitz, et qui raconte n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Il nous dit que pour faire la liberté religieuse, on s'est inspiré de Pie XII, enfin, n'importe quoi. Père Horowitz, qui dans la vraie vie est quelqu'un de très gentil, hein, c'est pas le problème, hein. Mais tout ce que vous nous opposez aujourd'hui a déjà été réfuté 1000 fois. 1000 fois. Donc très franchement, pourquoi vous vous acharnez à défendre le modernisme? Je ne comprends pas. Mais je n'exclus pas de faire une vidéo, je ne sais où encore, où je reprendrai les arguments qui n'ont aucun sens du père Horowitz. Et nous détricoterons tout ça, magistère de l'Église, à l'appui. Voilà. Nous allons maintenant arriver à la première partie de l'émission. Pierre-Thierry, vous pouvez retirer la pièce. Hein, si... Voilà, je n'en ai plus besoin. Donc nous arrivons maintenant, chers amis, vous disais-je, à la première partie de l'émission. À la seule d'ailleurs. qui est consacrée au film qui est improprement appelé Sacré-Cœur. Ce film est promu par de très nombreuses voix, modernistes et tradis. C'est tout à fait normal, chers amis, puisque ce film ne professe pas la foi catholique. Ce film professe la religion moderniste. Une religion moderniste à tendance charismatique totalement assumée, et marquée également, il faut le dire, par l'hérésie de Faustine Kowalska, la fausse sainte Faustine. Nous avons fait, dans le passé, une émission sur la fausse sainte Faustine, sur Radio Athéna. Je vous invite à aller la voir. De même que je vous invite à aller voir l'émission que nous avons faite sur le renouveau charismatique. Et d'aller voir également la vidéo qui s'appelle « Bergoglio s'attaque au Sacré-Cœur ». Toutes ces vidéos sont en lien avec ce dont on va traiter aujourd'hui. Donc il y a des points que je ne vais pas forcément approfondir, qui sont davantage approfondis dans ces vidéos. Voilà. Et je vous renvoie également, chers amis, au minutage que nous faisons et que nous mettons en lien, en description, pour vous aider à vous repérer. Ces émissions sont longues et denses, donc voilà, il ne faut pas hésiter à vous repérer sur le minutage pour rendre toujours les choses un peu plus claires. Donc, ce film, qui s'appelle Le Sacré-Cœur, est à la dévotion du Sacré-Cœur ce que la vie de Jésus d'Ernest Renan est à la véritable vie de Jésus, à la véritable vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rappelle que le bouquin de Renan a été mis à l'index. Bon. À l'issue du film Sacré-Cœur, du couple Gunel, on ne sait pas ce qu'est la dévotion catholique au Sacré-Cœur. On sait ce qu'est la dévotion moderniste au Sacré-Cœur. On va longuement en parler. On ne sait pas ce qu'est la dévotion catholique au Sacré-Cœur. Ce n'est pas, chers amis, parce que des gauchistes ne savent pas faire la différence entre des catholiques et des modernistes, entre le catholicisme et le modernisme. Ce n'est pas parce que ces gauchistes qui ne savent pas faire cette distinction attaquent le film, que ce film, qu'il faut débrancher nos cerveaux, qu'il faut débrancher notre capacité de discernement, et qu'il faut dire que ce film défend la foi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Permettez-moi une analogie, ce n'est pas parce que les soviétiques persécutaient à la fois les catholiques et les schismatiques orientaux, que le schisme oriental devenait vrai pour autant et qu'il fallait faire la promotion du schisme oriental pour autant. Cela ne me fait pas particulièrement plaisir de faire cette mise au point en soi, car, même si je le fais par devoir, car son réalisateur est quelqu'un de plutôt sympathique, il a un parcours plutôt sympathique, et j'ai vu plusieurs de ses interventions sur plusieurs médias pour préparer cette émission, et il dit un certain nombre de choses justes qu'il faut dire. Et vous pouvez notamment aller voir son entretien qu'il a fait sur la chaîne YouTube qui s'appelle Les Incorrectibles, où il parle longuement de sa vie et de son parcours. Donc, Steven Gunel est une personne très sympathique. Je pense qu'il a un sincère amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais malheureusement, à cette heure, il est moderniste. Il n'est pas catholique. Voilà. Et je ne dis pas ça pour vous blesser, Steven Gunel. Je le dis parce que c'est la vérité. Et la charité consiste à dire à une personne qui est dans l'erreur doctrinale qu'elle est dans l'erreur doctrinale, parce que sinon elle va au carton. Et nous devons la vérité à Dieu et aux âmes. Donc le respect humain ne doit pas nous empêcher de dire la vérité. Je remarque que ce film a été soutenu notamment par Bolloré. Autant lorsque les médias Bolloré droitisent les boomers sur les questions identitaires et sociétales, c'est une bonne chose, autant c'est une bonne chose lorsque cette sphère s'attaque au récit au narratif du pouvoir, on l'a vu notamment dans le passé sur la question du Covid, autant j'observe que lorsque ça parle de doctrine, c'est une catastrophe, c'est un désastre. Donc j'invite les gens de cette sphère à ne pas parler de doctrine, en tout cas, tant qu'ils ne sont pas convertis. Voilà. Ensuite, j'observe, chers amis, une collusion entre les tradis et ce film anti-catholique. L'un des intervenants dans ce film et l'abbé Raffray. Je rappelle que l'abbé Raffray est un membre de l'Institut du Bon Pastis, ex-communauté Ecclesia Dei. Et il partage l'affiche avec les modernistes les plus décomplexés. Ça ne lui pose aucun problème. Donc c'est non au cédévacantisme pour lui et c'est oui au modernisme. Il y a une porosité entre le modernisme et les tradis. Et d'ailleurs, le couple Gunel a été reçu sur la chaîne Academia Christiana, qui est une émanation de la sphère Ecclesia Dei. Donc il y a une porosité entre les tradis et le modernisme le plus décomplexé. Et une fois encore, il nous est prouvé que les tradis servent à une chose, à ramener dans le giron moderniste, ou à garder dans le giron moderniste, les personnes qui, dans la secte, se posent les bonnes questions et qui sont désireuses de devenir catholiques. Par ailleurs, ce film m'a fait comprendre, je dirais, que mon argumentation, qui se base sur la doctrine de l'Église, qui se base sur la foi catholique, qui se base sur le magistère de l'Église, ce film m'a fait comprendre que mon argumentation ne peut pas parler à un moderniste pur cru. Ce n'est pas possible. Parce que le moderniste pur cru ne sait pas ce qu'est le catholicisme. Le catholicisme, c'est ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu et pour sauver son âme. La religion moderniste n'a rien à voir avec tout ça, chers amis. La religion moderniste, pour un moderniste pur cru, c'est une approche complètement déréglée de la notion d'amour, qui aboutit à approuver ce que l'Église réprouve. Je répète, pour un moderniste pur cru, le catholicisme, mettez beaucoup de guillemets, c'est une notion complètement déréglée de la notion d'amour qui aboutit à approuver ce que l'Église réprouve et qui aboutit à aimer ce qui, selon la foi catholique, ne peut pas être un objet d'amour. Très concrètement, les fausses religions. Les fausses religions. Prévôt, les fausses religions sont condamnées par l'Église catholique. Les fausses religions sont promues par la secte moderniste. Prévôt, dans son discours du 28 octobre, nous dit que les fausses religions qui damnent sont des religions sœurs. Et, j'ai oublié de vous le dire, chers amis, un pseudo-cardinal espagnol qui, de mémoire, est au Maroc, a eu une phrase invraisemblable d'un point de vue catholique, mais parfaitement vraisemblable d'un point de vue moderniste. Citation de ce pseudo-cardinal, hein. Nous devons abandonner le faux paradigme de la vraie religion contre la fausse religion. Voilà. Et ce cardinal s'appelle Cristobal López Romero. Il est à Rabat. Donc ce cardinal nous dit qu'il n'y a pas de différence entre la vraie et la fausse religion et que l'Église catholique s'est trompée pendant 2000 ans de faire cette distinction. Voilà. Autre exemple, l'Église catholique condamne l'homosexualité. La secte moderniste bénit les couples homosexuels. Donc elle bénit un lien homosexuel, donc elle bénit l'homosexualité. Même si je sais très bien qu'il y a un double discours dans la secte moderniste et qu'on va pouvoir trouver toujours des catéchismes dans lesquels l'homosexualité est mollement condamnée. Alors que le catéchisme Saint-Pédis disait que le péché contre nature crie vengeance devant Dieu. C'est-à-dire que ça implique une vengeance de Dieu. Excusez du peu. Bon. Et dernier exemple, le concubinage. Le concubinage est un péché mortel, donc des personnes qui vivent en concubinage ne peuvent pas communier. Que fait la secte moderniste avec Bergoglio et Amoris Laetitia? On nous dit, si, les personnes qui vivent en concubinage peuvent communier. C'est monstrueux. Donc vous voyez, au nom de cette notion déréglée de l'amour, il faut tout accepter, même le mal, même le péché. Or, je rappelle, l'Église enseigne que l'erreur et le mal n'ont aucun droit à l'existence. Donc je vais faire la critique du film. Je ne doute pas qu'il a été fait avec une très bonne volonté et j'espère que les personnes qui ont vu ce film, je dirais, vont le dépasser pour s'affranchir de la dévotion moderniste qui est véhiculée pour aller vers une dévotion véritablement catholique du Sacré-Cœur. Et d'ailleurs, à cet effet, nous vous renvoyons une fois encore à l'ouvrage de Mgr de Ségur consacré à la question, le lien est en description. Alors tout d'abord, quels sont mes quatre griefs contre ce film? Je vous les énonce, ensuite je développe. Le premier grief, c'est qu'il y a des lacunes énormes sur la question du Sacré-Cœur. Le deuxième grief, c'est que ce film véhicule la religion moderniste, l'hérésie moderniste. Le troisième grief, c'est que ce film promeut la secte charismatique, qui est une secte dans la secte. Quatrième grief, c'est que ce film véhicule une fausse dévotion au Sacré-Cœur, marquée par l'hérésie de Faustine Kowalska, la fausse sainte Faustine. Subversion qu'on observait déjà dans la pseudo-encyclique faite par Bergoglio, qui s'appelle Dilexinos, dont on va reparler tout à l'heure. Bon. Alors tout d'abord, lacunes. Il y a des lacunes énormes sur ce sujet. Par exemple, dans le film, il n'est pas fait mention des 12 promesses faites par le Christ à Sainte Marguerite Marie pour ceux qui pratiquent la dévotion au Sacré-Cœur. Comment on peut parler de ce sujet sans parler de ça? Là, il y a quand même un manquement énorme. Et parmi ces 12 promesses, je rappelle la dernière, à savoir que si un catholique communie le premier vendredi de chaque mois, 9 mois de suite, il lui sera promis la pénitence finale. Il aura la grâce de la pénitence finale, c'est-à-dire qu'il ne mourra pas sans pouvoir se confesser avant. Ça veut dire qu'il est sûr d'aller au ciel. C'est extraordinaire comme grâce, chers amis. Sûr d'aller au ciel. On ne parle pas de ça dans le film, mais on parle de quoi alors? On passe à côté de l'essentiel. Bon. Par ailleurs, on ne dit rien de ce que l'Église, rien ou peu, de ce que les papes, plus précisément du 19e, ont dit ou fait au sujet du Sacré-Cœur. Hein, on ne nous évoque pas que Pie IX a proposé à ses fidèles de se consacrer au Sacré-Cœur. On ne nous dit pas que Léon XIII a instauré une fête pour le Sacré-Cœur, etc., etc., etc. Bon. Donc il y a d'énormes manquements. Concernant la consécration au Sacré-Cœur, alors je précise une chose, c'est que le film, je l'ai vu 2 fois, pour être sûr de ne pas dire de bêtises à son sujet. La première fois que j'ai vu le film, j'ai sans doute été inattentif, j'ai pas entendu parler de la consécration au Sacré-Cœur. En fait, si, à la fin du film, il y a un individu qui nous parle de la consécration de sa famille au Sacré-Cœur. Mais c'est évacué rapidement, ça aurait dû être un élément central du film, vous voyez. Donc, quand les points importants sont évoqués, ils sont marginalisés. Donc, il y a des lacunes énormes. Autre exemple, le refus Louis XIV d'écouter les promesses, d'écouter Sainte Marguerite Marie et de réaliser ce que le Christ lui a demandé de faire. Le film s'appelle, le sous-titre du film de mémoire, c'est « Le règne du Sacré-Cœur n'a pas de fin ». Mais le règne du Sacré-Cœur n'a pas commencé à cause de Louis XIV. Il n'a pas commencé. Vous voyez? Donc, il y a de grosses lacunes concernant le sujet même, si je puis dire. Bon. Ensuite, comme je vous l'ai évoqué, deuxième grief, c'est la religion moderniste qui est professée par ce film, de toute évidence. La religion catholique est une religion qui vise au salut de l'âme. La religion moderniste, qui est une religion du salut universel, ne vise pas au salut de l'âme. Elle vise au bien-être personnel. Au bien-être personnel. C'est ce que j'appelle la religion aspirine. Je vais mal, ma religion va faire que je vais aller mieux psychologiquement. J'ai une peine de cœur, il m'arrive un problème avec mes amis, je ne sais pas quoi, je vais prendre mon aspirine, je vais prendre ma religion aspirine. Voilà. Bien entendu, chers amis, la religion catholique peut apporter de la joie. Mais en soi, ce n'est pas une finalité. C'est d'autant moins une finalité que le Christ, l'Église, nous demande de porter nos croix. Et si vous lisez l'histoire de Sainte Marguerite Marie à la Coque, elle ne recherchait pas en soi le bien-être, puisqu'elle s'imposait en permanence des pénitences toujours plus dures. Lisez la vie du curé d'Ars. Le curé d'Ars ne recherchait pas le bien-être matériel, physique, émotionnel même, j'ai envie de dire, puisqu'il s'infligeait toujours des pénitences et des croix plus lourdes. Donc je répète, la foi catholique vise au salut de l'âme, et elle nous demande de porter nos croix. La religion moderniste vise à nous apporter de l'aspirine, c'est une religion qui doit apporter le bien-être. Et plusieurs personnages de ce film le disent. L'un d'entre eux, un franco-mexicain, nous dit « J'étais dans une période de dépression intense. Si je ne m'étais pas plongé dans le Sacré-Cœur, je ne m'en serais jamais sorti. » Donc oui, il nous dit qu'il a pris son médicament, et il va mieux. Hein? On nous dit aussi que le Sacré-Cœur donne ses blessures pour nos guérisons. On ne parle pas du salut de l'âme. Oui, on parle pas du salut de l'âme. On parle pas de l'état de grâce. Voilà. J'ai beaucoup de joie dans mon cœur, nous dit un certain Jean-Marc. Bon, on est heureux pour Jean-Marc, mais est-ce que vous portez vos croix, mon cher Jean-Marc? Bon. Voilà, donc dans ce documentaire, on ne parle pas du salut de l'âme. Et donc, on comprend d'autant mieux pourquoi on ne parle pas de cette grâce extraordinaire, ce cadeau du bon Dieu, qui est la grâce de la pénitence finale. Par ailleurs, tout émane du modernisme dans ce film, et notamment les clercs qui sont interrogés, qui parlent avec ce jargon insupportable moderniste, qui vise à employer des mots en dehors de leur sens, qui vise à ne jamais désigner clairement le réel, qui vise à parler en ces circonlocutions, je crois qu'on dit. Voilà, ce jargon imbuvable, qui veut dire tout et son contraire, dont on va reparler dans quelques instants. Par ailleurs, toutes les images de messe, entre guillemets, qu'on voit sont des pseudo-messes Paul VI. Il n'y a pas d'image de messe catholique. Il n'y en a pas. De même, lorsqu'on voit des femmes dans l'église en train de prier, à chaque fois, elles sont en pantalon et elles ne sont pas voilées. Vous voyez ? Je rappelle qu'une femme normalement non voilée n'a pas le droit d'entrer dans l'église. Ça peut paraître brutal à la mentalité de notre époque, mais c'est comme ça. À tel point que si une femme se présente, en état de grâce, se présente devant un prêtre pour communier, le prêtre, normalement, ne doit pas lui donner la communion. C'est ça la discipline de l'église. Ben là, on voit que des femmes qui sont en pantalon à la messe et non voilées. Voilà. Bon. Par ailleurs, pour nous parler des miracles eucharistiques, et c'est pas ce qui manque dans l'histoire de l'église, qu'est-ce qu'on fait ? On nous parle du pseudo, enfin du entre guillemets miracle bidon de Buenos Aires. Allez voir la vidéo de Daniel Dias à ce sujet. Par ailleurs aussi, il y a une anecdote qui, si je l'ai bien compris, peut-être que je l'ai mal compris, mais si je l'ai bien compris, est totalement sacrilège sur le plan du principe. Alors, entendez-moi bien. Il n'y a pas vraiment de sacrilège en vérité. Pourquoi ? Parce que les pseudo-messes Paul VI ne sont pas valides. Donc, comme elles ne sont pas valides, il n'y a pas de transsubstantiation. Il n'y a pas notre Seigneur Jésus-Christ dans les pseudo-messes Paul VI. Donc, Dieu merci, il n'y a pas de sacrilège. Mais sur le plan du principe, ce qui est décrit à un moment donné par un des personnages, c'est un sacrilège. On nous explique ceci. On nous explique qu'à un moment donné, on donne l'Eucharistie à une dame qui a Alzheimer. Mais, comme elle ne comprend pas ce qui se passe, elle n'arrive pas à avaler l'hostie. Alors que ce qui nous est décrit, si j'ai bien compris, et si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est qu'une religieuse qui est présente reprend l'hostie en question, le mâchonne elle-même, pour qu'il soit plus facilement avalable, et elle le remet dans la bouche de la dame. Non mais c'est un truc de fou! C'est un truc de fou! Et on met ça dans un film. Alors, soyons très clairs, hein. Si j'ai mal compris, je fais mon mea culpa. Mais il me semble que j'ai bien compris. Hein. Il me semble que j'ai bien compris. Mais encore une fois, si j'ai mal compris, je fais mon mea culpa et je m'en excuse par ailleurs. J'espère avoir mal compris. Hein. Parce que le message envoyé, il est catastrophique. Hein. Ça, c'est pas le respect de l'hostie, ça. C'est pas le respect de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je précise aussi une chose. C'est que le film commence par une citation de Bergoglio, de sa pseudo-encyclique d'Ilexinos. Et donc il y a la citation à droite, et à gauche, il y a le visage de Bergoglio. Et comment est représenté le visage de Bergoglio ? Entouré de flammes. Ça, c'est fantastique, ça. C'est pas Cédric Vincentis qui a fait ça, mais il est représenté entouré de flammes. Ce qui n'est pas exclu, hein, qu'il soit d'ailleurs entouré de flammes alors qu'on est en train de se parler. C'est pas exclu. Je le sais pas, j'en sais rien. Je dis c'est pas exclu. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça, c'est... Oui, ça m'a fait un peu sourire. Voilà. Donc, le film commence par le visage de Bergoglio, qui nous avait pas tellement manqué, hein, faut le dire. Et il se termine par l'image de Prévost et une citation de Prévost. Voilà. Dans la suite de ce que je vous dis, ce film fait la promotion de la secte charismatique. Qu'est-ce que c'est le charismatisme, le renouveau charismatisme ? Ça nous vient du protestantisme. Déjà, ça vient d'une secte. C'est pas terrible. Et d'une hérésie. C'est pas terrible. Cela vient du protestantisme pentecôtiste. Le protestantisme pentecôtiste repose sur un rituel démoniaque qui s'appelle le baptême dans l'Esprit Saint, qui est un, entre guillemets, huitième sacrement. Qu'est-ce que c'est un sacrement ? C'est un signe sensible qui communique la grâce. Donc les protestants pentecôtistes ont inventé, entre guillemets, un huitième sacrement, qui est le baptême dans l'Esprit Saint qui se donne en s'imposant les mains, et qui, soi-disant, entre eux, se transmet au Saint-Esprit. En réalité, c'est un rituel démoniaque. Dans l'Église catholique, nous avons sept sacrements, mais la secte moderniste a intégré ce huitième sacrement. Et le renouveau charismatique a été promu à fond par Vostila Jean-Paul II et par tous les pseudo-papes derrière. Donc la secte moderniste a introduit ce rituel démoniaque qui s'appelle le baptême dans l'Esprit Saint et qui est appelé dans d'autres cas l'effusion dans l'Esprit Saint, je crois, mais c'est la même chose. Bon. Tout le long du film, chers amis, tout le long du film, il est fait la promotion de la communauté de l'Emmanuel, qui est un mouvement charismatique. Ça ne pose pas de problème à la Bérafray de partager l'affiche avec la communauté de l'Emmanuel. Voilà. Cher Bérafray, Vous accepteriez de vous faire de faire un baptême dans l'Esprit Saint? Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Et vraiment, je n'ai pas posé la question à un prêtre, mais je pense qu'un prêtre vous recommandera aux personnes qui ont fait ça de se faire exorciser. Hein. Je poserai la question à Claire. Pareil, quand on voit des images, des événements qui sont faits à Paray-le-Monial de nos jours, que voit-on? On voit des gens qui prient comme des musulmans, vous savez, avec les mains comme ça tournées vers le ciel. On voit des gens qui communient avec les bras en l'air. On voit des gens qui dansent de façon très bizarre sur scène. Ça n'a rien à voir avec le catholicisme, tout ça. Rien. Rien. C'est pas catholique. Désolé, monsieur Gunel, c'est pas catholique, tout ça. Bon. Et bah, pendant tout le film, il a fait la promotion de ça. C'est-à-dire qu'on ne fait même pas la promotion, par exemple, des communautés avec les ADI. Vous voyez? Pour faire bonne figure, quoi. Non, on ne fait même pas ça. Voilà. Et également, à un moment donné, il est très rapidement évoqué les foyers de charité de la faussaire et de la fausse mystique Marthe Robin. Donc, on véhicule le modernisme, on véhicule on fait la promotion de la secte charismatique. Pas terrible tout ça. Bon. Et ensuite, comme je vous dis, on véhicule une fausse dévotion au Sacré-Cœur, totalement subvertie par rapport à ce que l'Église a défini comme étant la véritable dévotion au Sacré-Cœur. Alors, on se souvient, chers amis, que dans sa pseudo-encyclique Dilexinos, Bergoglio avait tenté de subvertir la dévotion au Sacré-Cœur par l'hérésie de la fausse sainte Faustine Kowalska et de l'archi-hérétique, archi-hérésiarque Faustine Kowalska. Quelle est l'hérésie de Kowalska? C'est ceci. Oh, hérésie qui est reprise dans le pseudo-magistère de la secte moderniste, donc qui est officiellement infaillible quand même, puisqu'on parle de foi et de mœurs là. Bon. On nous dit ceci, on nous dit « la miséricorde de Dieu est supérieure à la justice de Dieu ». Ça peut avoir un sens orthodoxe, les théologiens l'ont défendu. Mais c'est après que ça déraille. Kowalska en conclut que puisque l'amour de Dieu est supérieur à sa justice, il n'est pas nécessaire d'expier ses péchés pour aller au ciel. Je répète, selon cette hérésie, il n'est pas nécessaire d'expier ses péchés et de changer de vie pour aller au ciel. Bon, je développe tout ça en citant le journal de Kowalska dans mon émission, qui lui est consacrée, je vous y renvoie. Et ceci a été mis en œuvre par Bergoglio, notamment dans les consignes qui sont données pour la confession, puisque c'est le fameux todos, todos, todos. Il faut toujours donner l'absolution, selon Bergoglio, même s'il n'y a pas un engagement clair pour changer de vie, pour rectifier sa vie et la mettre en conformité avec la morale catholique. Todos, todos, todos. Bon. Donc voilà l'hérésie de Kowalska. Que nous dit Pie XI, infailliblement, Pie XI, un vrai pape, lui, dans son encyclique « Miserantissimus Redemptor ». Et là, vous allez me voir venir. Pie XI nous dit que l'esprit d'expiation, l'un des grands absents du film, Monsieur Gunel, si vous me permettez, l'esprit d'expiation est au cœur de la dévotion au Sacré-Cœur. Citation. L'esprit d'expiation ou de réparation a toujours tenu le premier et le principal rôle dans le culte rendu au Sacré-Cœur de Jésus. Rien n'est plus conforme à cette dévotion, d'ailleurs. Rien n'est plus conforme, pardon, à l'origine, à la nature, à la vertu et aux pratiques qui caractérisent cette dévotion. D'ailleurs, l'histoire, les usages, la liturgie sacrée et les actes des souverains pontifes en portent témoignage. Donc, l'esprit d'expiation est au cœur de la dévotion au Sacré-Cœur. De quoi devons-nous expier ? Pie XI nous le dit dans son encyclique. Nous devons expier parce que ce sont nos péchés qui ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. On se rappelle que le catéchisme du Concile de Trente nous dit que nous, pécheurs, avons les mains déicides. C'est puissant comme phrase. Ça parle quand même. Nos péchés ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous devons expier. Et donc, nous devons faire preuve d'un amour réparateur. Nous devons faire des communions réparatrices. Je n'ai pas le souvenir qu'on parle de communion réparatrice dans votre film, Monsieur Gunel. On doit faire des amendes honorables, on doit se consacrer au Sacré-Cœur, etc. etc. Bon. Donc nous devons expier en raison de nos péchés. Et donc des offenses faites à Dieu. Bon. Que nous dit Bergoglio dans sa subversion kowalskienne de Dilexinos? Il nous dit ceci. D'abord, Bergoglio subvertit le motif de la réparation. Il nous dit, nous devons réparer pour les offenses faites à Dieu. Pas du tout. il nous dit mot pour mot, nous devons réparer pour les offenses faites au monde. Faites au monde et non pas à Dieu, premièrement. Et on se souvient, là il est raccord avec Prévost, qui vient de nous dire que l'Église synodale est au service du monde et non pas au service de Dieu. Bon. Ensuite, que fait Bergoglio? Deuxième subversion, il subversit la notion de réparation, puisqu'il vide la notion de réparation de sa dimension d'expiation. Donc c'est une réparation qui n'est plus une réparation-expiation chez Bergoglio. Puisque selon lui, comment faut-il réparer? Donc non pas en expiant, mais il faut réparer en créant, il reprend le concept de Wojtyla Jean-Paul II, la civilisation de l'amour. Qu'est-ce que c'est la civilisation de l'amour? C'est un projet pélagien, de l'hérésie pélagienne, qui repose sur la négation du péché originel. Je développe ça dans diverses interventions. Je vous invite notamment à aller voir la vidéo que j'ai faite également sur Wojtyla Jean-Paul II. Donc c'est la négation du péché originel. Donc c'est un monde impossible, c'est une utopie terrestre, dans lequel la question de l'état de grâce est hors sujet. Totalement hors sujet. C'est toujours hors sujet avec les modernistes. Bon. Donc double subversion de Bergoglio. Premièrement, il subvertit le motif de l'expiation. Deuxièmement, il subvertit le moyen de l'expiation. C'est-à-dire qu'on passe d'une réparation-expiation à une réparation qui n'expie plus du tout. Le film Sacré-Cœur véhicule cette double subversion. D'abord, concernant le motif de la réparation, à savoir nos péchés qui ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas évoqué dans le film. Et même à un moment donné, un clerc moderniste parle et il nous dit que ce sont principalement les péchés des clercs qui sont visés, qui sont la cause de l'expiation, enfin de la réparation, parce qu'ils n'emploient pas le terme expiation, et ils visent principalement les abus sexuels. Mise au point sur la question des abus sexuels. Déjà, cette expression m'énerve parce que c'est un euphémisme pour désigner des viols et des agressions sexuelles. Bon. 80% de ces viols et agressions sexuelles sont commis par des hommes contre des hommes. 80% de ces viols ont un caractère homosexuel. Ce qui interroge sur le nombre de clercs homosexuels dans la secte moderniste. Jamais dans l'histoire de l'Église, il n'y a eu massivement des clercs homosexuels. Jamais. Et d'ailleurs, jamais ses ennemis qui ont porté contre elle toutes les calomnies ne l'ont accusé de cela. Jamais. Bon. Nous avons mis en description un reportage d'Arte qui évoque des clercs modernistes qui ont quitté la secte moderniste parce qu'ils ne pouvaient pas vivre pleinement leur homosexualité. Les intéressés ne se disent pas homosexuels, ils ne se disent pas gays, ils se disent homosensibles. D'ailleurs, parmi eux, il y a un ancien de la fraternité Saint-Pilis, ce qui est quand même une chute effrayante. Bon. Voilà, donc, ça laisse... Je me rappelle aussi que sur France Culture, il y a eu un reportage sur les clercs homosexuels dans la secte moderniste, et l'un des clercs interrogés disait que selon son estimation, c'était 50%. Bon, je répète, il n'y a jamais eu ça dans l'histoire de l'Église, c'est une preuve supplémentaire que cette secte n'est pas l'Église instituée par notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Donc bref, 80%... Alors ce chiffre de 80%, je ne le sors pas de mon chapeau. Hein. De mémoire, le rapport Sauvé l'évoque, et Frédéric Martel, qui est lui-même un journaliste homosexuel, dans son livre, dont je ne dirai pas le nom aujourd'hui, évoque ce chiffre. Voilà. Ceci étant posé, si nous devons expier, ce n'est pas seulement à cause des péchés de ces prédateurs modernistes homosexuels, et aussi hétérosexuels, parce qu'il y a aussi les 20% qui sont commis par des hétérosexuels, ce n'est pas seulement ça, c'est pour tous les péchés des hommes. Donc déjà, premièrement, subversion quant au motif de la réparation. Et ensuite, il y a une parfaite application de la pseudo-encyclique de Bergoglio. Puisque ce qui est évoqué comme réparation, ce n'est pas une expiation. L'expiation, l'esprit d'expiation, c'est l'un des grands absents du film, avec la grâce de la pénitence finale. Vous voyez, il y a deux grands absents dans ce film, c'est la grâce de la pénitence finale et l'esprit d'expiation. Donc ce film nous rappelle très rapidement qu'il faut réparer, mais c'est quoi réparer? Il y a un clerc moderniste, il y a deux clercs modernistes qui nous le disent. Alors réparer c'est quoi? Citation, c'est une surdose d'amour là où l'amour est absent. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Bon. On nous dit réparer c'est suraimer. C'est un jargon qui veut dire tout et son contraire. Non, réparer c'est expier. Expier par un amour réparateur. Voilà. Nous devons répondre à l'immense amour de notre Seigneur Jésus-Christ par un amour réparateur. Et nous devons expier. Voilà. Et bien ça, on ne l'entend pas dans le film. Il y a une pure subversion des dévotions au Sacré-Cœur. Le film insiste sur le fait que le bon Dieu nous aime. Oui, c'est vrai, c'est toujours bon de le rappeler. Mais il n'est jamais dit qu'à cet amour, il faut répondre par un amour réparateur qu'il faut expier. Et ça, c'est au cœur de la dévotion au Sacré-Cœur, nous dit Pie XII, dans Miserantissimus Redemptor. Eh bien, ce cœur de la dévotion au Sacré-Cœur, M. Gunel, sans provocation de ma part, il n'est pas dans votre film. Je vous invite à lire Miserantissimus Redemptor de Pie XI et à mettre à la poubelle les torchons modernistes sur le Sacré-Cœur. En conclusion, chers amis, le film Sacré-Cœur est un film qui ne professe pas la foi catholique et qui, au contraire, qu'il y a une collusion entre les tradis et les modernistes les plus progressistes. De ce point de vue-là, ce film est utile. Il permet de démasquer les tartuffes ecclésiadei et plus largement modernistes conservateurs. Donc, chers amis, pour préserver votre âme, ne lisez pas la vie de Jésus d'Ernest Renan et n'allez pas voir ce film qui s'appelle improprement Sacré-Cœur. J'en ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions, mon cher Pierre-Étienne ?
Je vais lire les dons des auditeurs en direct. Merci Alexandra pour son don, merci à Fabien pour son don et merci à RFD qui fait un don généreux de 10 euros et qui dit « Merci Maître, n'oublions pas que la dévotion au cœur immaculé de Marie les premiers samedis du mois, pendant 5 mois, doit être impérativement effectuée par tous les catholiques. »
Oui, mais c'est quand même dingue qu'on ne parle pas de la grâce de la puissance finale. C'est comme si vous faites un film sur Fatima et que vous ne parlez pas des secrets de Fatima. Oui, c'est... Je ne sais pas qui a été votre conseiller, M. Gunel, mais vos conseillers, à mon avis, doctrinaux, ont été des modernistes. Des modernistes pur cru. Et M. Gunel, sachez que je vais prier pour votre conversion. Je suis sûr que vous êtes une personne de bonne volonté. Et je pense que vous avez beaucoup de choses à apporter potentiellement. Si vous convertissez, vous pouvez devenir une machine de guerre au service de l'Église. Donc j'espère de tout cœur que vous allez vous convertir. Et que vous allez abjurer Vatican II. Je vous ai vu parler de Wojtyla avec des... Wojtyla est un ennemi de la foi catholique. Il a professé le salut universel. J'ai oublié de le faire. Pardon, je voulais vous ramener les bouquins du Johannes Dorman qui décrivent la doctrine de Wojtyla, qui professe le salut universel de façon totalement décomplexée. Totalement décomplexée. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions
Robert te demande ce que tu penses du fait que le maire de Marseille a voulu interdire ce film et que la RATP interdit les affiches.
J'ai déjà répondu par cela. Ouais. C'est pas parce que les gauchistes, les révolutionnaires et les laïcards ne savent pas faire la différence entre le catholicisme et le modernisme que le modernisme devient vrai et qu'il faut le défendre. C'est aussi simple que cela.
Une question de Alsan qui te demande des références thomistes.
Ça ne veut rien dire. La somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Voilà, qu'est-ce que je vais vous répondre ? Mais si vous commencez pas par dire saint Thomas. Saint Thomas, il faut être un peu aguerri pour ça. Commencez par lire des auteurs simples. Commencez par lire Monseigneur de Ségur. Commencez par lire Monseigneur Gaume. Ensuite, vous attaquez avec le magistère de l'Église. Très important, fondamental. Lisez les bons catéchismes. Catéchisme de Saint-Pie X, catéchisme du chanoine Moisset, exceptionnel le catéchisme du chanoine Moisset, parce que extrêmement pédagogique et ludique. Vous voyez ? Voilà.
Christophe Arnaud, avez-vous lu le récent discours franc-maçon de Prévost sur la recherche de la vérité ?
Non. Non, je ne l'ai pas lu. Ça ne serait pas de donner la référence en description, enfin en commentaire, cher ami.
Christophe Arnaud.
Voilà.
Jean demande, que pensez-vous du providentialisme et de Marie-Julie Jaini ?
Très sincèrement, je n'ai pas beaucoup creusé le dossier Marie-Julie Jaini. Je connais des personnes qui sont très attachées à Marie-Julie Jaini, j'en connais d'autres qui m'ont opposé de très sérieuses réserves. Voilà. Moi, je vous avoue que je n'ai pas pris le temps de creuser. Mais vous voyez, on n'a pas besoin de Marie-Julie Jaini, chers amis. Hein. On a la foi catholique, on a le magistère de l'Église. Déjà, qu'on soit solide sur ces appuis-là, comme on dit au rugby, hein, et c'est déjà énorme. On n'a pas besoin de surrajouter toujours des choses.
Alsan demande, que pensez-vous des autres grands courants théologiques catholiques rivaux du thomisme, Jordan Scott, Francisco Suarez ?
Je ne connais pas la question. Je n'ai jamais lu Don Scott. Je ne suis pas du tout compétent pour répondre à ça.
Et c'est tout pour les questions.
Don Scott, je peux me tromper, mais je crois qu'il a eu des petits pépins avec l'autorité à l'époque. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que je fais une
coupe. Il est bien heureux, non, je crois.
Selon la secte moderniste.
Ah oui.
Selon la secte moderniste. Ouais. Il est bien heureux, comme est saint Grégoire de Narek, qui n'a jamais été catholique selon la secte moderniste. Il est bien heureux, comme est saint Isaac de Nive, qui n'a jamais été catholique, qui est resté toujours un historien. Voyez. Il est bien heureux, comme est saint la mère Teresa, qui était ultra œcuménique, ultra moderniste. Ou comme Kowalska, qui avait déjà été condamnée par l'Église. Hein. Elle avait été condamnée par le Saint-Office. J'ai oublié de le rappeler. Kowalska a été condamnée par l'Église. Voilà. Bon, s'il n'y a plus de questions, Pierre Tirmont, bon. On peut arrêter. Hein.
Entendu.
Merci, chers amis. Eh bien, écoutez, avec l'aide de Dieu, le combat continue. À bientôt.